Jamais personne ne pourra reproduire le vrai regard d'un mort. Jamais. C'est quelque chose qui est typique. C'est un regard dans le vide, mais dans un vide auquel on n'a pas accès, nous. Quand on essaye d'avoir le regard dans le vide, on essaye de regarder le plus loin possible. Mais là, c'est au-delà de tout ça. La grosse différence, c'est ce regard-là. Il est... On ne peut pas recopier ce regard-là.
Si un mec dans la rue met lui une main au cul, est-ce que tu l'as déjà fait ?
Celle qui ose.
Bonjour Maude, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de Celle qui ose. Et je vais commencer par une question simple, mais qui est finalement peut-être la plus compliquée. Qui es-tu ?
Je suis une jeune maman de 38 ans qui est du sud de la France, qui l'a toujours été, et qui a la chance de pouvoir vivre de sa passion. Pour compléter ma réponse, je suis thanatopractrice, mais aujourd'hui je suis préparatrice en anatomie dans une faculté de médecine. Un thanatopracteur est la personne qui s'occupe des défunts, de la simple toilette mortuaire à sa conservation pour stopper ce que l'on appelle la thanatomorphose, plus vulgairement la décomposition des corps, afin de pouvoir le présenter à ceux qui restent, ou de permettre un transport dans des conditions sanitaires légales. Et un préparateur en anatomie est la personne qui va mettre à disposition des corps qui ont été donnés à la science, ou plus particulièrement des personnes qui ont donné leur corps à la science, dans un but d'enseignement, de recherche et de formation au sein de facultés de médecine. Je n'ai pas choisi ce métier, c'est ce métier qui m'a choisi. C'est une chose que je répète souvent. Et c'est quelque chose qui est venu à moi, avec ce besoin à la fois de mêler de la technicité et de la grande précision, et de pouvoir toucher à un être humain, à soigner un être humain qui ne peut plus se soigner lui-même, et pour permettre à des personnes d'entamer en tout cas un processus de deuil correct. Travailler vraiment, voilà, la précision me plaît beaucoup et la polyvalence. Et le métier de thanatopracteur, qui est assez connu aujourd'hui maintenant, c'était quelque chose qui était dans l'ombre, oui, fait partie des tabous de l'être humain, comme l'argent, le sexe, etc. Là, on touche à la mort. C'est peut-être ça aussi qui m'a attiré, puisque c'est quelque chose de... C'est une gloire dans l'ombre, quelque part, puisqu'on fait un métier qui est indispensable sans avoir forcément les lauriers. Ça, c'est vrai, on est très peu reconnus. J'apporte du soin à des personnes qui ne peuvent plus s'occuper d'eux-mêmes, et surtout des personnes qui sont décédées, clairement. Donc ça peut être effectivement du bébé à la personne âgée, et de leur apporter une forme de repos, quel qu'il soit, et les accompagner en tant que, quelque part, moi je me considère un peu comme une passeuse, on appelle un psychopompe aussi quelque part, les amener d'une rive à l'autre de la manière la plus sereine possible, avec tout le respect qu'on leur doit.
Pour nous, commun des mortels qui ne sommes pas proches de la mort, ça pose des questions sur le rapport à la mort que tu peux avoir. C'est un métier qui fait peur pour la plupart des gens. Je pense que dans ton quotidien, tu dois avoir énormément de questions par rapport à ça. On a du mal à imaginer une promo joyeuse qui se prépare à ce genre de métier. Est-ce que tu peux m'expliquer le cheminement que tu as eu ? Comment tu peux réussir à aborder la mort, à approcher la mort au quotidien ? Et comment tu expliques que tu n'es pas peur ou moins peur, ou justement tu vas nous dire peut-être que tu as peur d'approcher la mort comme ça au quotidien ?
Je fais bien le distinguo, et c'est naturel, ce n'est même pas à chercher, forcer, calculer, entre mon métier et ma vie personnelle. À titre personnel, j'ai vécu des décès qui m'ont profondément attristée. On n'est pas tous égaux hein, devant la mort. Par contre, quand je suis à mon travail, j'ai énormément d'amour pour les corps que je traite, avec beaucoup d'émotions aussi, énormément d'émotions, il ne faut pas se le cacher. Je pense qu'un bon thanato est un thanato qui a des émotions et de l'empathie pour le corps qui est en face de nous. Surtout, aucun jugement, puisqu'on ne connaît pas la vie des personnes que l'on soigne. Après, le rapport à la mort que je peux avoir est complètement différent. Voilà, c'est ce que je viens de dire, entre le professionnel et le personnel. Je n'en ai pas peur du tout, j'ai cette chance-là. Et c'est ce pourquoi aussi je pense que ce métier-là me correspond bien. Puisqu'effectivement, c'est un tabou qui effraie beaucoup de personnes à juste titre, puisque tout est occulté dans la mort, comme tout tabou, on cache les choses. Sauf que c'est une réalité. C'est une réalité qui nous touche tous, c'est une certitude que l'on a tous, en tout cas on va mourir. Et moi mon but c'est de faire en sorte que les gens puissent se poser le moins de questions possibles et surtout déstigmatiser vraiment tout ce qu'il peut y avoir autour de la mort, puisqu'il faut savoir que tous les messieurs qui touchent à la mort, plutôt que de respecter les gens, on écoute les légendes urbaines, beaucoup de... Dire, il y a beaucoup de clichés sur ce qu'on appelle les croque-morts vulgairement, sur les thanatos, il y a aussi beaucoup d'histoires qui nous desservent. Il faut se battre aussi tous les jours contre ça, et tu parlais à juste titre des étudiants tout à l'heure. Moi j'ai pour habitude, chaque année, en début de cours, quand je les vois pour la première fois, parce que c'est des groupes que je vois toute l'année, mais la première fois que je les vois, je prends une demi-heure à leur expliquer qui je suis, quel est mon métier, à leur poser des questions plus ou moins personnelles, en tout cas à leur demander s'ils ont déjà vu des corps quels qu'ils soient, que ce soit dans leur famille, etc. Donc j'y vais très très doucement, je parle avec eux de la manière dont je fais mon métier, de la manière dont je respecte les corps, de la manière dont je souhaite qu'ils respectent les corps.
Là tu parles des étudiants médecins.
Les étudiants en médecine qui en tout cas se prédestinent, voilà, et qui sont dans un étudiant, dans une dynamique de médecine, qui ont réussi ce qu'on appelle la passe aujourd'hui, qui sont en deuxième année vulgairement, on appelle ça des P2, et beaucoup ont 19-20 ans. Beaucoup n'ont jamais vu, ne serait-ce que même, un corps dans leur famille. Il y en a quelques-uns. Et je pose toujours la question, est-ce que vous avez une appréhension? Je leur dis que c'est des menteurs quand il y en a qui ne lèvent pas la main, puisqu'on a tous peur de rentrer, ne serait-ce que dans une pièce où il y a un corps. C'est pas quelque chose qui est naturel. Pourtant, c'est la chose la plus naturelle du monde. Mais pour nous, on occulte tellement la mort qu'on évite d'en côtoyer. Et je leur dis toujours que moi, j'ai choisi ce métier. J'ai dit l'inverse tout à l'heure. Mais en tout cas, ce métier, je le fais tous les jours. J'en vois tous les jours. Et eux, non. Et ils n'en verront pas non plus toute leur vie. Donc, mon but, ce n'est pas de les choquer. Au contraire, c'est peut-être de susciter un intérêt. Donc, on y va très doucement. Je commence par leur montrer une main. Il n'y a rien de grave sur une main, c'est juste pour qu'ils aient un premier contact. Déjà, le premier contact se fait dans la pièce quand ils savent qu'il y a la présence d'un corps dans la pièce, sous un drap. Ils ne voient rien pour le moment. C'est vrai qu'il y a une sorte de pesanteur quand on est dans une pièce avec un corps. Déjà, ce premier contact-là, ils le réussissent. Et puis ensuite, on va tout doucement vers le corps jusqu'à la pièce disséquée, parce que c'est le principe des TP. Et ça se passe très bien. Et au tout début, où j'ai commencé en faculté de médecine, il y avait énormément de malaise. Normal, c'est une appréhension. Mais sur 100 personnes, 99 me disent « mais ça m'énerve, je ne veux pas être bien, je veux y retourner. » C'est juste une pression qu'on se met parce que c'est un tabou social qui est énorme. Social, même sociétal. Enfin, c'est énorme, mais c'est pour ça que j'aime tellement mon métier que je ne veux pas justement qu'il y ait une crainte, je veux qu'il y ait un intérêt. Donc je les amène petit à petit aux choses et leur montre qu'effectivement on se fait beaucoup d'idées vis-à-vis de la mort. Il y a des choses vraies, c'est vrai, il y a des choses fausses et je me tiens toujours à disposition pour répondre à leurs questions, mais il ne faut surtout pas choquer les gens parce que c'est quelque chose qui peut engendrer beaucoup de traumatisme. Je ne connais pas la vie personnelle de chacun et tous les deuils sont différents. Chaque personne est différente, on peut pleurer plus pour sa voisine que pour sa mère. Pour des tas de raisons différentes. Il y a aussi un état d'esprit ponctuel. Il y a des tas de choses, et ça, il faut le savoir. Donc, le grand bonhomme qui va rien dire tout le long sera peut-être plus touché que la petite nénette. Voilà. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait, et il faut toujours marcher sur des œufs, et c'est un savoir-être qui est très précis dans ce métier-là.
Tu parles de tabou sociétal, justement, à quel niveau, enfin, d'après toi, est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi la mort est aussi tabou dans notre société occidentale ?
Pourquoi ? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est un fait. C'est au même titre que l'argent, la politique, le sexe, c'est des choses qui sont cachées, tout simplement parce qu'elles amènent à une réalité qui rend triste, qui n'est pas forcément toujours propre, qui n'est pas... voilà, c'est quelque chose qui est occulté parce que ça fait peur, tout simplement. La mort, oui. En général, on en a peur. On a peur de mourir. C'est la fin de tout. Donc, c'est un tabou. Oui, et tu l'as bien dit, c'est dans notre monde occidental, puisque dans d'autres pays, ce n'est pas vécu de la même manière. Seulement, nous, c'est occulté. On ne va pas avoir de... Voilà, au JT, de reportage sur tout ça, ça va attirer des millions de téléspectateurs parce qu'il y a un intérêt, une curiosité malsaine, des choses comme ça. Ça fait partie de, voilà, des curiosités malheureusement malsaines de l'être humain. Maintenant, pourquoi ça, je ne pourrais pas y répondre, mais en tout cas, oui, historiquement, On a cette manière d'occulter la mort, et tout ce qui est caché interpelle. Soit fait peur, soit excite. Ouais.
Quel est ton rapport à la mort ?
Il est différent si je suis au travail ou si je suis dans des conditions personnelles. Dans des conditions personnelles, si ça me touche directement, mais je reste un être humain. Hein. Je reste un être humain qui réagit en fonction de, comme je le disais tout à l'heure, de mes émotions du moment, de la proximité avec la personne, de l'histoire, etc. Quand je suis au travail, j'essaye de garder cette sensibilité-là et je sais que j'y parviens. Je me souviens toujours que cette personne-là a été un petit bébé dans les bras d'une maman. Peu importe si c'est un homme, une femme, etc., ça a été forcément l'enfant de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a eu un passé, qui a vécu sa vie comme nous, on est en train de la vivre à ce moment-là. La sienne est terminée. Donc mon rapport à la mort est beaucoup plus technique, bien sûr, à mon travail. Mais j'ai toujours une pensée émue pour la personne qui est entre mes mains, même si c'est la troisième fois de la semaine que je la vois. J'ai des gestes toujours très respectueux, comme si j'avais la maman de quelqu'un entre mes mains et que cette personne-là était en train de regarder mes gestes. J'ai une manière toujours très respectueuse de toucher les corps. Je leur parle.
Tu leur dis quoi ?
Ça dépend, merci de m'aider, parce que des fois des choses se passent très bien, des fois c'est vrai qu'il y a des soins de conservation qui sont un peu plus compliqués que d'autres, donc à ce moment-là je me recule, je dis bon maintenant il va falloir m'aider, moi je suis là pour vous, je ne suis pas là pour vous embêter, allez madame, voilà c'est bon j'ai terminé, vous êtes bien, bien propre, je les accompagne dans tout, allez on va faire ça, je ne suis pas la seule à faire ça, hein. on est beaucoup à le faire, mais voilà, il y a beaucoup d'humanité dans ce que je fais, et ça ne reste pas, pour moi, un être humain, je l'ai eu entendu, ça m'a beaucoup choqué, un être humain décédé n'est pas un bout de viande. C'est un être humain. Voilà, c'est quelqu'un comme vous et moi. Il faut avoir un rapport complètement respectueux et ému par rapport à tout ça. Parce que cette personne qui est entre mes mains suscite des larmes derrière des portes que je ne vois pas. Et moi, je ne les connais pas, les personnes qui restent. Moi, par contre, j'ai la personne qui est décédée entre mes mains, et par respect pour ces gens-là aussi, je me dois d'y apporter le plus grand soin.
Lorsque tu reçois les gens dans ton, comment on appelle ça, ton cabinet,
ton laboratoire,
tu les reçois, ce sont des numéros, tu ne connais jamais les noms des personnes que tu...
Alors, c'est l'inverse, je suis la seule à connaître l'identité des personnes. Et après, j'anonymise. C'est-à-dire que si une femme de ménage vient faire le ménage et qu'il y a des dossiers sur mon bureau ou qu'elle est au niveau des frigos, etc., ce sont des numéros. Je suis la seule à connaître l'identité des personnes. Donc ça, c'est pour la préparatrice en anatomie. Après, en tant que thanatopracteur dans le funéraire et dans le privé, là, c'est encore autre chose. On sait qu'on va faire le soin de monsieur ou madame untel. C'est deux milieux complètement différents. Mais pour mon métier actuel, vraiment, thanatopractrice en tant que préparatrice en anatomie, c'est encore autre chose. C'est moi qui anonymise pour des tas de raisons, parce qu'il y a un secret aussi qui se fait. C'est des gens qui viennent, la faculté où je travaille, on reçoit des gens de beaucoup de départements autour, mais potentiellement aussi de la rue d'à côté. Et si j'ai des étudiants, ils reconnaissent leur voisine, où il y a un nom, un prénom, ou une femme de ménage qui rentre et qui dit à monsieur et à madame untel, ça peut susciter aussi des curiosités, déjà que ça peut être le cas. Non, c'est très important d'anonymiser, et je suis la seule à connaître, avec bien sûr les pompes funèbres qui me les amènent, je suis la seule à connaître l'identité des défunts, et personne n'a accès à tout ça.
Comment tu prépares un corps ? Alors, quelles sont les étapes ? Tu viens de parler des pompes funèbres, donc les pompes funèbres t'apportent un corps, et ensuite comment ça se passe jusqu'à ce qu'il se retrouve sur la table, entier ou pas, pour une analyse ?
Alors, pour le métier en laboratoire d'anatomie, il y a tout le processus effectivement d'acheminement du corps avec des conditions de délai d'hygiène et de logistique très, très, très strictes. Je ne peux pas recevoir un corps 48 heures après son décès, il ne doit pas y avoir de ce qu'on appelle un obstacle médico-légal, pas de maladie contagieuse, etc. La personne, surtout la condition sine qua non, doit être inscrite de son vivant en tant que donateur de corps, qui est complètement différent du donateur d'organes. La personne arrive, et puis à ce moment-là, effectivement, j'ai toute une liste de papiers. On est en France, il y a énormément d'administratifs. Beaucoup d'administratifs, de vérifications, et ensuite, la préparation d'un corps, c'est effectivement commencer toujours, que ce soit dans le funéraire ou pas, je dirais pas une asepsie, mais en tout cas un nettoyage du corps, une toilette, une toilette pour nettoyer tous les orifices, tout le corps, pour s'assurer et pour vérifier aussi toutes les particularités physiques du corps, s'il y a des escarres ou s'il y a eu peut-être une cicatrice à un endroit ou à un autre, qui pourra me permettre de les orienter ou pas vers des enseignements ou pas. C'est sûr que si on me demande un enseignement sur l'épaule et que je vois une cicatrice sur l'épaule, je l'aurai noté sur mon dossier, ce n'est pas un corps que je vais pouvoir proposer, par exemple, pour ce TP-là. Et ensuite, c'est une préparation. On a plusieurs préparations, soit ce qu'on appelle un soin de conservation, on peut vulgariser en disant un embaumement, pour mieux comprendre, soit ce qu'on appelle un corps frais, c'est-à-dire qu'il est laissé tel quel. Les différences, c'est qu'un soin de conservation, le corps va tenir beaucoup plus longtemps, mais les structures vont changer un peu de couleur, etc., mais va être conservé un peu comme on dit dans le formol, des choses comme ça, sauf que c'est pas trop des choses qu'on utilise. Soit on va le laisser frais, alors c'est-à-dire que c'est un corps qui ne va pas être touché chimiquement. Il va être nettoyé, évidemment, aseptisé, anonymisé. Il y aura les mêmes structures que sur le vivant, les mêmes qualités de tissu, etc., mais on ne pourra pas le garder très très longtemps. C'est comme n'importe quel, je vais faire le parallèle avec la nourriture, avec de la viande ou quoi, qu'on laisse trop dehors. C'est sûr que si elle est cuite, elle restera plus longtemps dans le même état, mais si elle est fraîche, au bout d'un moment, elle va tourner. C'est exactement pareil. On a deux moyens de conservation. Et ensuite, à l'issue de son utilisation, les corps partent en crémation obligatoire. J'en profite pour bien expliquer aux gens qu'on ne dit pas une incinération. Ça, c'est très important. Et j'y attache beaucoup d'importance. L'incinération, c'est pour les animaux et les déchets. Donc, on crématise des personnes dans des crématoriums. On travaille avec un crématorium. Et nous, on a la chance de pouvoir rendre les cendres si la famille le souhaite.
Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de disperser les cendres là où on veut ?
La loi sur la destination des cendres, si je ne me trompe pas, date de 2008. Il y a eu une modification. Des cendres, aujourd'hui, sont considérées au même titre qu'un être humain entier. C'est-à-dire qu'on ne peut plus garder une urne, par exemple, chez nous. C'est interdit. En France, c'est interdit maintenant, puisqu'ils ont fait passer le statut des cendres au même statut qu'un corps dans un cercueil. C'est-à-dire qu'au même titre que vous ne garderez pas un corps dans un cercueil chez vous, on ne peut pas garder des cendres, puisque c'est un être humain à l'intérieur. Des cendres peuvent être, au choix, mises dans une urne cinéraire et scellées sur un monument funéraire, dans un monument funéraire, mises dans un columbarium, peuvent être dispersées dans un jardin du souvenir ou dispersées en pleine nature avec bien sûr des autorisations, pas préfectorales, mais en tout cas de mairie, de commune, etc. Voilà. Mais on ne peut plus légalement garder de cendres chez soi, c'est interdit.
Tu m'avais parlé un jour de la préparation des infirmières et du personnel hospitalier à la mort. Est-ce que tu peux partager avec nous ton avis là-dessus ? Parce que y a une grande mixité en France, un métissage de culture, de religion, et nous sommes tous différents, voilà, comme tu le disais, déjà individuellement, mais encore en communauté aussi, nous avons des différences vis-à-vis de la mort. Est-ce que d'après toi, les annonces sont bien faites ou pas ? Pourquoi ? Et qui devrait être formé ?
Alors, je crois qu'il existe, en tout cas, des petits modules pour apprendre à annoncer le décès, sauf que normalement, ce n'est du ressort que d'un médecin. Seul un médecin a le droit d'annoncer un décès. Et mon avis là-dessus, c'est qu'effectivement, le médecin, c'est pas... Voilà, vous êtes tous allés à l'hôpital déjà. Le médecin, c'est pas celui qu'on voit le plus. Celui qu'on voit le plus ou celle qu'on voit le plus, ça va être des aides-soignants, des infirmières ou parfois quand c'est à domicile, voilà, des aides à domicile, des choses comme ça. Et ces personnes-là ne sont pas formées. Ni à l'annonce, ni à la gestion derrière du corps, du décès, etc. Donc elles ont des automatismes, je pense aux infirmières, voilà, de sceller la bouche, de faire une toilette, etc. Bon, nous, en tant que thanatos, ça nous pose quand même pas mal de problèmes, puisque ça nous empêche derrière certains souhaits, mais bon, il y a un manque de formation complètement, il n'existe rien. Il n'existe rien, et comme tu le disais, voilà, il y a une différence de culture. On n'approche pas un corps de quelqu'un, de musulman, de la même manière que ce qu'on approche quelqu'un qui peut être athée, peu importe. De la même manière, un corps de chez une personne juive ne va pas être traité de la même manière. Ce n'est pas du tout les mêmes obsèques déjà, ce n'est pas les mêmes choses. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est une formation, puisque les personnes vers qui on va se retourner pour poser des questions en tant que famille, parce que, étant donné que c'est un tabou, on ne sait pas poser ces questions-là avant, on va poser les questions aux personnes que l'on voit le plus souvent, qui nous paraissent les plus professionnelles, donc c'est les infirmières, les aides-soignantes, les gens qui viennent à domicile, Mais elles n'ont pas les réponses. Elles n'ont pas les réponses exactes, elles ne savent pas. Elles vont penser à la première pompe funèbre qui passe, mais il est important de pouvoir les former, de leur dire, voilà, attention, on va vous demander peut-être tel papier, on va peut-être, le corps, là, il se passe ça, vous inquiétez pas, ça peut être normal, il peut arriver ça, ça et ça. Mais combien ça coûte ? Elles vont pouvoir peut-être répondre une fourchette. En tout cas, les orienter sans faire d'erreur, et surtout sans se sentir, démunis face à tout ça, parce que on se sent, c'est vrai que souvent une infirmière qui vient à domicile fait un peu partie de la famille au bout d'un moment, quand il y a des longs soins, si je pense à des gens qui ont des cancers, des choses comme ça, on lui offre des cadeaux à Noël, des chocolats, elle boit le café avec nous, etc. Et du jour au lendemain, elle se sent du coup valorisée, et du jour au lendemain, ne pas pouvoir répondre à des questions dans l'urgence, ça peut être aussi un problème d'ego, ça peut être difficile à vivre aussi. Ça peut être très difficile à vivre de pas savoir ce qui va se passer après. Donc il manque de la formation là-dessus, parce qu'effectivement voilà, il y a différentes confessions. Donc ça c'est pour le côté on va dire pas ésotérique, mais en tout cas la confessionnelle, puisqu'il y a beaucoup de confessions différentes. Il y a le côté administratif qui est très compliqué en France. Il y a des délais légaux. Il y a toutes ces choses-là. Il y a tout un prisme autour de la mort, à la fois psychologique, administratif, financier. Qui, même physique, biologique, qui n'est pas assez répandu. Et en tant que thanatopracteur, conseiller funéraire, voilà, tous les gens du funéraire, on est les seuls à les connaître et à s'y intéresser, puisque ça fait partie de la mort. Après, effectivement, il y a des soins palliatifs où ils sont beaucoup plus proches, et là, ils peuvent répondre à plus de questions, mais à ce jour, j'ai encore énormément d'appels d'infirmières qui me disent, voilà, on a quelqu'un qui est décédé, un résident ou un patient, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je dis, mais attendez, c'est pas la première fois que vous avez quelqu'un qui décède. Non, mais, et puis, souvent, on a des fausses informations. Des gens qui nous appellent, qui nous disent, voilà, l'infirmière nous a dit de faire ci, ça, mi. Non, pas du tout. Donc, il manque une information, que ça soit à la fois pour un public ciblé, soignant, aide-soignant et accompagnateur, mais aussi pour n'importe qui, pour le commun des mortels. Il y a un énorme manque parce qu'il y a un tabou. Toujours pareil.
Pour toi, la mort n'est pas tabou. J'ai envie que tu prennes vraiment le temps de me dire si tu as peur de la mort. Alors, tu nous as déjà répondu. Mais pourquoi ? Que penses-tu de la mort ? D'après toi, c'est quoi ? Que se passe-t-il ? Et tu peux me répondre au niveau physique et spirituel, et ce que tu penses, toi, me parler de toi, Maud, ton avis là-dessus.
Alors effectivement, oui, j'ai peur de la mort. J'ai très peur de la mort, de celle de mes proches, tout d'abord, avant de la mienne. De la mienne, je peux pas dire. Il y a une angoisse qui se crée quand on se rend compte qu'on éteint la lumière et qu'il se passe plus rien. On a toujours tendance à se dire que quand on a éteint une lumière, on peut la rallumer avec un interrupteur, on peut se coucher le soir, fermer les paupières et on sait qu'on va se lever le lendemain. Là, non, c'est plus le cas, donc ça, c'est angoissant puisque c'est un vide et on ne sait pas. D'un côté physique, je sais exactement ce qui se passe. C'est mon métier et effectivement, voilà, bon. Ça entraîne des choses plus ou moins jolies. Mais à titre personnel, dans le doute, puisque je ne suis pas croyante, mais par contre, je ne suis pas fermée, et parce que j'ai vécu aussi des expériences, hein, comme tout le monde. Je me dis que, je parlais tout à l'heure de passage, si vraiment il y a quelque chose après, en tout cas, j'accompagne les gens. Et tout mon côté scientifique me fait dire qu'il n'y a rien. Mais mon côté personnel me met toujours un petit doute là-dessus. Et oui, j'ai peur de la mort. Par contre, cette peur se dissipe quand je suis au contact de défunts, puisque là, je c'est moi qui la porte. C'est moi qui porte la mort et c'est moi qui suis maîtresse. Et je suis maîtresse de cérémonie, de cette cérémonie-là, quelle qu'elle soit, et je suis là pour accompagner ce corps-là, justement, qu'il soit entouré ou pas. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas entourées aujourd'hui, qui meurent seules. Donc je suis la dernière personne qui les touche. Et je change complètement, voilà, je suis complètement différente face à un corps. Voilà. Après, à titre personnel, oui, c'est compliqué de... Ça ne change rien, je pense, en tant qu'être humain, de travailler dans la mort par rapport à la manière dont on vit nos propres deuils. Je pense que on peut être donneur de leçons à côté, mais on reste des êtres humains. Et par contre, ça ne change rien à nos propres deuils.
Donc, tu n'as pas d'avis sur la mort, aucune croyance spéciale sur le sens de la vie ?
Je crois que dans tous les cas, que ce soit toi, que ce soit moi, n'importe qui, personne n'a demandé à venir au monde. Personne. En tant que parents, on se doit de mener, de guider en tout cas nos enfants vers quelque chose qui les transcendera, de les accompagner, de les préparer peut-être aussi au début et à la fin, puisque c'est la mort, on parle de cette mort-là, mais il y a d'autres morts, hein, il y a d'autres fins tout simplement. De croyances en elles-mêmes, non, je ne crois pas en avoir, mais je reste ouverte à certaines choses, ça, y a pas de souci. Pour le sens de la vie, on a tous quelque chose à accomplir. Et c'est dans ce sens-là où je disais tout à l'heure que je respectais les corps puisque je ne connais pas l'histoire des défunts avec qui je travaille. Je peux très bien avoir fait des soins sur des pédophiles. Je n'en sais rien. Je ne connais pas leur vie. Et entre mes mains, il reste les personnes qui sont nées innocentes, qui ont eu leur parcours mais que je ne connais pas, donc je ne juge pas. Mais par contre, entre mes mains, ils redeviennent des personnes innocentes qui viennent de perdre la vie, tout simplement.
Est-ce que tu as l'impression de ressentir la puissance de l'âme ? Déjà, est-ce que tu crois à l'âme ? Je veux chanter pour ceux... est-ce que l'âme, la chanteuse, je crois bien qu'elle existe.
Oui.
Est-ce que tu as ressenti une différence entre un corps inerte, mort, et une personne vivante autre que la chaleur, la vie, le cœur qui bat, la respiration? Est-ce que tu as cette sensation qu'un être vivant a une âme et qu'un défunt n'a plus d'âme, que l'âme est partie? Est-ce que tu as déjà pu ressentir ça ou pas du tout?
Alors comme je disais, j'ai vécu des expériences très particulières. Par contre, pour ta question, effectivement, il manque quelque chose. Ou il y a quelque chose en plus, je sais pas. Tout ce que je peux dire qui est très différent, c'est que tous les meilleurs comédiens du monde pourront simuler un mort au cinéma, pourront avoir le regard vide qu'on connaît là, au cinéma, les pupilles dilatées, etc. Jamais personne ne pourra reproduire le vrai regard d'un mort. Jamais. C'est quelque chose qui est typique. C'est un regard dans le vide, mais dans un vide auquel on n'a pas accès, nous. Quand on essaye d'avoir le regard dans le vide, on essaye de regarder le plus loin possible. Mais là, c'est au-delà de tout ça. La grosse différence, c'est ce regard-là. On ne peut pas recopier ce regard-là. Il n'existe que sur une personne décédée. La personne décédée regarde quelque chose qui nous transcende, qu'on ne peut pas avoir. Après, des histoires sur l'âme, même si je reste très cartésienne, oui, il y a des choses très particulières que j'ai pu voir, des choses que je ne pourrais jamais expliquer. Après, est-ce que ça veut dire qu'elles sont surnaturelles ou est-ce que c'est un concours de circonstances? Je ne sais pas, mais en tout cas, je reste marquée par des événements que j'ai pu vivre. Des personnes, je peux donner l'exemple d'une personne qui avait mis fin à ses jours, qui a vécu une vie. J'ai appris par son nouveau compagnon qu'elle avait eu une vie des plus douloureuses, une vie des plus chaotiques. Je parle de viol conjugal, je parle d'entraînement dans des sectes, je parle de dépression profonde parce que ses enfants étaient avec justement son ex-époux qui la battait, enfin, c'était terrible, quelqu'un qui n'arrivait pas à apprécier la vie à sa juste valeur, même si elle était très aimée par son nouveau compagnon. Et cette personne, je la reçois, donc avait mis fin à ses jours par pendaison, et je fais ce que j'avais à faire sur cette personne pour en tout cas masquer des signes les signes de cette mise à mort.
Je te coupe. Donc là, tu t'es occupée d'une défunte dont tu connaissais la famille.
Je ne connaissais pas la famille. J'avais rencontré la personne qui avait signé les papiers pour son décès, qui était son nouveau compagnon et qui avait besoin de s'épancher et de me parler un peu de sa famille, du contexte, du pourquoi elle avait fait ça, etc. Qui était très amoureux de cette personne-là. Et suite à mon intervention, était un corps qui paraissait très serein, contrairement au visage qu'elle avait quand elle est arrivée. On peut imaginer qu'effectivement, dans des conditions comme ça, le visage est un peu crispé. Et c'était une personne à qui j'avais redonné un sourire, mais un sourire discret, quelque chose d'apaisé. Et j'avais réussi peut-être à apaiser même son cœur ou son âme, comme tu disais tout à l'heure. Et ce monsieur aussi était soulagé de pouvoir la veiller. Et il m'avait dit, attention, le jour des obsèques, son ex-mari et ses enfants vont venir avec sa belle famille, ils sont tous dans cette secte. Hein. J'appréhende un peu, moi je me mettrai de côté, mais j'appréhende parce que plus cher c'est parce qu'elle aurait aimé, etc. Pendant 2 jours, le corps était exposé, donc il n'y avait que, elle avait personne, hein, il n'y avait que son compagnon et une amie qui étaient là, et ce corps restait dans sa splendeur. Et le jour des obsèques, effectivement, il me dit, ah ben tiens, voilà, ils arrivent, c'est eux, que vous sachiez. Je dis, bon d'accord, donc je me présente à ces gens-là. Ils me disent, bon, on vient la voir. Vraiment des gens très froids, en plus, des gamins qui... C'était vraiment assez très très froid, c'est vraiment impressionnant. Et je leur dis, bon, mais très bien, attendez devant la porte, je vais vous ouvrir de l'autre côté, je m'assure que tout est en place, etc. Et là, je retourne par l'arrière de la chambre funéraire et de la salle, du salon, et je m'approche du corps et je lui dis, il va falloir que tu sois courageuse une dernière fois. Ils sont là. Tu es entouré d'amour et ça va être la dernière fois, mais voilà, sache qu'ils sont là et ça va aller. Et je m'assure que tout va bien, que... Je les fais rentrer, je les laisse, ils sont restés 2 minutes 30 montre en main. Hein. Ils sont sortis, j'ai refermé la porte et je suis re-rentrée pour voir s'ils avaient déposé des fleurs, des choses comme ça, et je me suis approchée du corps. Et elle avait un rictus, mais inverse. Elle était comme quand on dessine un bonhomme triste, en fait. Toute sa bouche s'était affaissée vers le bas, alors que... Nous, on avait laissé la porte entrouverte au cas où il y a des choses. Et ils ne l'ont même pas touché. Ils ne l'ont pas touché. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, il se passe quelque chose. Là. Il se passe quelque chose. Donc après, j'ai refait le nécessaire pour que son visage retrouve un rictus un peu discret, serein. Et elle n'a plus rebougé. Mais je ne peux pas l'expliquer si c'est passé. Je ne le sais pas. Voilà, donc c'est des tas de petites choses comme ça où... Voilà, des défunts, il m'est arrivé de voir un corps pleurer. Enfin, une personne, pareil, une fois de plus, qui avait mis fin à ses jours, une culture bouddhiste. Sa famille s'était déplacée, pareil, il y avait des petits moines qui étaient venus, une cérémonie magnifique. Et cette personne, je l'avais eue sous mes yeux pendant des heures et des heures, puisque c'était par arme à feu cette fois-ci. Et j'avais fait tout le nécessaire pour masquer les blessures qu'elle s'était infligées, qui étaient somme toute assez discrètes, mais il fallait quand même masquer certains... C'est là que les gens vont sourire de certains trous de balles, clairement. Mais c'était le cas, c'était quelque chose d'assez discret. J'avais réussi du coup à la mettre aussi en tenue de cérémonie, puisque c'était une tenue particulière. Et je connaissais son corps de A à Z, son visage de A à Z, etc. Et arrive le jour de la cérémonie, je la mets en salon funéraire. La cérémonie arrive, moi j'étais en vacances le lendemain, je me rappelle très bien, la cérémonie se passe. Des gens très joyeux, c'est une communauté qui est très joyeuse et qui appréhende la mort justement de manière très différente. Mais bon, le suicide c'est un peu difficile. Et quand ils me disent c'est bon, c'est terminé, on a fini de faire... Donc ce corps-là, il n'y avait pas de question de condensation, de chaud-froid, etc. Pareil, il ne les touche pas. Donc j'ai fermé la porte et je l'ai fait sortir par derrière et je lui ai dit, voilà, en plus elle avait le même âge que moi, on était de la même année, c'est pour ça que ça m'avait beaucoup touchée. Et je lui avais dit, voilà, je vais te remettre en cellule réfrigérée, moi je ne serai pas là demain pour ton départ. Parce qu'elle partait en crémation. Je te souhaite un très bon voyage, mais je pense qu'ils t'ont pardonné. Je pense qu'ils t'ont pardonné, ils ont l'air d'avoir pardonné ton geste, tu peux partir tranquille. Et je me retourne pour ouvrir la porte du frigo, je me repenche vers elle pour pouvoir fermer la housse, et une larme a coulé de ses yeux. Et là, j'ai fait un pas en arrière, à la fois de stupéfaction et d'émotion, et je me suis retrouvée à courir dans l'accueil de la chambre mortuaire et à attraper un moine en disant « Venez vers moi, il y a quelque chose qui se passe. » En fait, le corps pleure. Et cette personne-là, d'un calme olympien, m'a dit « C'est normal. C'est normal, c'est bien, tout va bien. » Je lui ai dit « Mais tout va pas bien, là. Si, tout va bien. » Donc, je n'ai rien dit, je suis retournée auprès du corps, j'ai fermé la porte et je n'ai pas sorti un mot, jusqu'au lendemain. Ça a été une expérience, voilà. Donc c'est des cas comme ça qui me font dire qu'il y a peut-être quelque chose en fait.
Merci beaucoup Maud, merci d'avoir partagé ton expérience. Je suis certaine que cet épisode aura intéressé énormément de gens. N'hésitez pas à poser des questions à Maud en commentaire de ce podcast. Elle viendra y faire un tour et quant à moi, je vous dis à très vite sur Celles qui osent.